Alors, une fois n'est pas coutume, c'est la première fois que je vais parler en n'étant pas en tailleur. Et voilà, le poids des âges commence à se faire sentir. Et donc, j'ai un genou qui me fait mal, qui m'empêche d'être confortable longtemps en tailleur. Et voilà, mais je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Alors, en fait, j'ai prévu de vous partager trois constats, et suite à ces trois constats, de vous faire une proposition que nous allons vous décliner, Anne-Marie et moi. Les trois constats. Le premier, c'est que le monde va mal, et que, selon toute vraisemblance, il ne va pas aller mieux demain et ni après-demain. Selon toute vraisemblance, nous allons, au fil des ans, voir un certain nombre de situations s'empirer. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Emmanuel, partageait comme ça nos sentiments, et il a eu cette phrase, qui a un petit peu de l'humour à Emmanuel, et oui, le Covid, c'est juste les olives de l'apéritif, par rapport à ce qui nous attend dans les années qui viennent. Voilà, alors c'est l'humour d'Emmanuel, mais je souscris malheureusement à ça. On espère tous que le Covid va se dissiper, etc. Mais ensuite, il va y avoir quoi? Il va y avoir des crises de l'énergie. Là, ça y est, ça, c'est juste ça, c'est un petit soubresaut parce que ça augmente de 12%. Mais ça, c'est rien du tout. Ça, c'est les cacahuètes qui sont avec les olives. On est encore qu'au début de l'apéritif. Voilà, après, bon, voilà. Donc, nous avions consacré tout un cycle sur ce thème il y a 2 ans, le thème de l'effondrement. Certains d'entre vous s'en souviennent. On avait évoqué la perspective hindoue sur le fait que l'humanité suit des cycles et non pas un progrès linéaire, et qui semblerait bien, il y a beaucoup de signes qui laissent entendre que nous arrivons à la fin d'un cycle, voilà. Bon, alors, moi, je pense que c'est réaliste d'avoir ça en tête, que c'est sain de lâcher l'idée que ça va aller mieux demain et que c'est juste une crise passagère, etc. Je pense que si on est dans cette optique-là, eh bien, on risque de prendre des claques à répétition, voilà. Alors que si on est plutôt dans l'idée, ben oui, il y a des chances pour que ça aille pas très bien, et on ne sait pas à quel rythme, on ne sait pas où ça craquera en premier, est-ce que c'est des mouvements sociaux, est-ce que c'est des problèmes climatiques, est-ce que c'est la biodiversité, on va se retrouver juste avec presque plus d'espèces vivantes autres que les humains, voilà, tout ça combiné. Bon, mais c'est quand même dans cette direction, semble-t-il, que l'avenir se dessine, et il me semble que c'est réaliste que de prendre ça en compte, sans forcément non plus virer dans le catastrophisme, et puis les choses se feront à un certain rythme, je ne sais pas à quel rythme, peut-être que c'est que de notre vie, on est quand même plutôt plus proche de la sortie que de l'entrée, nous, parce qu'on a 70 ans, enfin, Marie, ça y est, moi, c'est dans quelques mois, bon, ben, voilà, on verra peut-être... Ça sera peut-être pas encore trop catastrophique, mais voilà, notre petit-fils, ben voilà, on s'arrache un peu les cheveux avec Anne-Marie. Mais voilà, dans quel monde il va grandir et comment ça sera pour lui. Bon. Premier, donc ça c'est le premier constat, je m'apesantis pas, puisque vous connaissez les choses, après vous n'êtes pas obligé d'avoir le même regard que nous, que moi et que nous, mais en tout cas, je partage mon regard sur... et celui d'Emmanuel, entre autres, sur la situation actuelle. Deuxième constat, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste remarquablement à ces différentes situations, perturbations, etc. C'est l'enseignement de Swamiji. Et ça, c'est quelque chose qui nous émerveille, Anne-Marie et moi, c'est que en fait il y a comment j'ai envie de dire il y a tout dans cet enseignement, pour faire face au présent. Au présent, voilà, je ne sais pas comment, quelle tournure prendra concrètement, prendront les événements, mais enfin, très régulièrement, en lisant des phrases de Swamiji, où, enfin, voilà, on se dit, ben voilà, mais il n'y a qu'à juste appliquer ça. Il y a vraiment le mode d'emploi pour faire face à tout et à son contraire. Vous connaissez cette phrase de Swamiji, ne vous attendez qu'à une seule chose, c'est être surpris. Donc, ça veut dire, ne vous attendez à rien de particulier, rien de précis. Et en particulier, donc, ne vous attendez pas à ce que ça aille forcément mieux, ne vous attendez pas non plus à ce que ça aille de façon catastrophique demain, mais soyez ouverts au fait que ça change tout le temps et que le réel débordera toujours nos perspectives, nos efforts pour anticiper, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir intelligemment, se préparer intelligemment, mais soyez sûr d'une seule chose, attendez-vous à une seule chose, c'est être surpris. Voilà. Bon, ça c'est un petit aspect. Et puis, l'autre aspect qui est vraiment une clé majeure, alors à la fois de l'enseignement de Swamiji et une clé de vie, c'est la fameuse loi du changement, dont vous avez tous entendu parler. Quand on la lit une première fois, on trouve que c'est, oui, oh, bah, c'est sympathique, oui, c'est, oui bah, bien sûr. Voilà. Mais quand on se met un peu sérieusement à observer comment nous nous situons face au changement, et on voit que c'est une toute autre paire de manches. En fait, pour nous, le changement, c'est presque toujours connoté positivement ou négativement. Il y a les changements qui me plaisent, ceux qui vont dans le sens de mes attentes, et il y a les changements qui me déplaisent parce qu'ils viennent contrarier mes attentes. Eh bien, Swamiji nous dit, voilà, tant que vous maintiendrez la distinction entre ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît, vous souffrirez et vous serez sujet à la condition humaine ordinaire. Alors que si vous usez ce mécanisme de préférence et si vous vous habituez à donner le droit au réel d'être ce qu'il est au moment où il l'est. Si le réel tourne à droite, je tourne à droite. S'il tourne à gauche, je tourne à gauche. S'il descend, je descends. S'il monte, je monte. À ce moment-là, c'est la clé pour être en paix, heureux, détendu dans toutes les circonstances qui peuvent arriver. Donc là, on a là, avec cette loi du changement, là, clé universelle pour gérer ce dont je parlais dans mon premier constat, cet état du monde qui, pour le moins qu'on puisse dire, est préoccupant et risque de l'être de plus en plus. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose auquel on est, avec Anne-Marie, tout spécialement sensible depuis quelques mois que nous avons pris comme livre de chevet, comme un certain nombre d'entre vous, Le Maître du Oui, le petit livre écrit, enfin, compilé par Renaud Perronnet. Voilà. Donc, hein, ça fait partie des choses qu'on vous a proposé de faire cette année. C'est de mettre une phrase de ce livre par jour, puisque c'est un calendrier, de vous l'afficher et puis de, voilà, de la contempler. Voilà. Bon, cette collection de phrases n'est pas
très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour 2 secondes par jour, puisque c'est un calendrier affiché à contempler. Regardez.
Voilà. Bon, désolé pour cette interruption. Donc, je disais que je ne suis pas un fan du choix ou des choix qu'a fait Renaud dans ce livre. Il y a des phrases qui nous parlent plus que d'autres, etc. Mais avec un...
Est-ce que tu peux remettre ton micro, parce qu'en te penchant, il a bougé et on n'entend plus de la même façon. Ton micro sur ton pull.
D'accord. Ça va être mieux.
Ouais, je crois. Le son ne sort pas là.
Ah, pourtant. Si, si. D'accord. On a plus fort, peut-être. Oui, vous pouvez mettre plus fort si ça ne suffit pas.
Non, il
ne
sort plus là.
Ah, il y a... Oui, voilà. Oui. Oui, parce que si on monte trop, ça fait du larcet. Ça va ?
Ouais.
Oui, donc je disais que ce livre, voilà, c'est, on peut éventuellement contester le choix des phrases, mais en fait, nous, on le prend comme il est écrit, et on se dit, bah, cette phrase-là, elle ne me parle pas, ou elle me parle bien, mais on essaye de la faire résonner en soi, voilà, on la prend comme un support de travail, il y a des fois où c'est parlant, d'autres ça l'est moins, mais on joue le jeu. Bon, c'était pour vous dire, pourquoi je suis venu à parler de ça, c'est que on a vraiment en face, entre autres, de ces phrases qu'on affiche sur notre frigo tous les jours, la phrase du jour, on a vraiment très régulièrement des moments d'émerveillement en nous disant, mais voilà, on n'a rien besoin d'autre, il y a juste à appliquer ce que Swamiji dit, et en particulier ce qu'il dit sur le changement et sur la différence, puisque ce sont les deux déclinaisons de la même loi. Voilà, alors ben, je vais vous transmettre le grand secret, n'est-ce pas, que, voilà, vous avez déjà entendu, mais pour pouvoir faire face à ce qui nous attend, qui de toute façon nous surprendra, eh bien, il faut et il suffit d'avoir un oui d'avance. Voilà. Je me débrouille pour avoir un oui d'avance. Donc si j'ai un oui d'avance, eh bien, en effet, quelque chose se passe différemment de ce qui me se présentait, mais ah, j'ai mon oui d'avance, je le sors. Donc, on peut dire que d'un certain point de vue, toute la sadhana, c'est de constituer le oui d'avance, c'est-à-dire de dire un certain nombre de fois oui à retardement, mais comme je dis oui à retardement, quelque part, ça m'habitue à dire oui. Et donc, moi, je vois ça d'un point de vue neurologique, bien que je n'y connaisse rien, je ne suis pas médecin, mais je suis persuadé que quand on met en pratique, on reconfigure le cerveau, on recrée de nouveaux circuits neuroniques parce que nous sommes connectés pour dire non. Voilà, on est tous autant qu'on est, on est en partie peut-être parce qu'on est comme ça, mais aussi beaucoup en partie par notre éducation. On sait dire non et on dit non du matin au soir, etc. Mais c'est tellement vrai que c'est pas juste philosophique. C'est aussi, selon ma compréhension, neuronique. C'est-à-dire que ça passe par des circuits et ça va plus vite que nous. Donc au début, quand on se met à tenter de mettre en pratique, bah, on est toujours en retard d'un train. C'est-à-dire qu'on commence par dire non, on se rend compte qu'on a dit non, des fois où tout va bien, il y a plein de fois où on ne se rend pas compte, et puis on fait péniblement marche arrière, il faudrait quand même que j'arrive à dire oui, mais j'arrive pas, etc. Bon. Petit à petit, en faisant ça, si on le fait sérieusement pendant assez longtemps, ma compréhension, c'est que on restructure notre cerveau. Il y a un autre mot pour dire ça. Comme on dit, c'est la plasticité cérébrale. On reconfigure notre cerveau, merci. Et ce qui fait que ça devient de plus en plus facile. Et ce qui fait que quand on est un petit peu ancien sur la voie et qu'on a travaillé sérieusement, eh bien, il y a plein de situations où spontanément, on ne dit plus non. Parce que tout simplement, le circuit qui disait non spontanément, à force de plus être utilisé, il est plus valide, les connexions sont plus. Voilà, donc ça, c'est ma conviction, c'est notre conviction, et en fait, c'est la raison d'être de la vertu. La raison d'être de la vertu profonde, c'est de développer des méthodes, des moyens, des aides, pour nous faire gagner, parce qu'évidemment, je me mets dans le tas, une plus grande faculté à dire oui à ceux qui se présentent. Et avec ce que j'ai dit au début, c'est clair qu'on va en avoir besoin de plus en plus. Donc, avis aux amateurs. Trois constats. Le troisième constat, Eh bien, c'est que de façon un peu mystérieuse, pour ne pas dire miraculeuse, après 30 ans d'existence, la Berthet est toujours debout. Ça vous paraît une évidence, mais pour ceux qui sont un peu anciens et qui ont connu l'histoire du Bost, l'histoire de Fondisière, l'histoire d'Hauteville, l'histoire des centres affiliés, eh bien, Ardennes, qui était tenue par Alain et Claudie, n'existe plus. Saucine, qui était tenue par Olivier et Minouk, n'existe plus. Etc. Je ne vais pas tous les décliner, mais la loi du changement a fait que des centres qui étaient tout à fait vivants, représentatifs, et dont certains d'entre vous ont bénéficié, hein, peut-être que Christian nous en parlera un tout petit peu. Christian, c'est un ancien d'Ardennes, par exemple. Michel aussi. Et Michel aussi. Je pense que vous étiez déjà ensemble. T'as connu Ardennes. Voilà. Or aussi. Bref. Voilà. Alors, nous, ça nous paraît évident. Bah oui, la Berthet, ça existe, ça existe. Bah oui, mais pourquoi nous, ça continue après 30 ans alors qu'il y a d'autres endroits où ça s'est arrêté? J'en sais rien. J'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est que ça n'est pas uniquement notre volonté à nous. Alors, bien sûr qu'on y est pour quelque chose, parce que si on dit demain, on prend notre retraite, on arrête. Bon, ça s'arrêtera par la force des choses, ou ça prendra une autre forme. Mais nous avons le sentiment d'être portés par un courant qui nous dépasse. Ceux qui connaissent un peu les débuts de la Berthet, vous savez qu'il y a eu un certain nombre de petits miracles, c'est-à-dire de coïncidences, qui ont rendu possibles les choses et qui, dans d'autres situations, y compris dans notre vie, on veut, mais en fait, ça ne se passe pas. Donc, pourquoi ça s'est passé à la Berthet? J'en sais rien. Et surtout, pourquoi ça continue? J'en sais rien non plus. Mais je pense que c'est intéressant et important que chacun se rende compte que c'est une chance, que, alors peut-être ça va durer encore 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, mais peut-être pas. Donc, il faut aussi être capable de mesurer la chance qu'on a quand elle nous est donnée, et non pas vivre, c'est normal, la Berthet, ça roule, etc. J'espère que ça va rouler longtemps, encore une fois, mais que chacun d'entre nous se rende compte de la chance qu'il a. Et je nous mets dans le lot, nous avons la chance, nous aussi, de disposer d'un lieu dans lequel nous nous retrouvons régulièrement, certes pour l'animer, mais il y a des moments où on participe. Voilà, quand on médite ensemble, et c'est une méditation en silence, moi je médite et comme vous qui méditez, quand on fait venir un intervenant extérieur comme Véronique ou comme tout à l'heure Christian, je serai aussi dans l'assemblée, je profiterai des paroles qui nous seront échangées, etc. Donc nous aussi on est bénéficiaires, et nous aussi on a cette conscience de que c'est pas un dû, ça pourrait nous être enlevé. Et alors là, est-ce que j'ai un oui d'avance? Juste pour la petite histoire, il y a quelques années, pas loin d'ici, c'est-à-dire sur la commune de Vieux-Vie, il y a une propriété un peu semblable à la nôtre qui a brûlé. Chaque fois que je passais devant le toit, je me disais, devant le bâtiment qu'on voyait un peu loin, je me disais, mais ça pourrait arriver à la Berthet. C'est arrivé déjà, il y a eu des départs d'incendie qui ont été mineurs, mais je veux dire, voilà. Ah, et alors, si, alors après, je me disais, j'arrive et je regarde le toit. Quand je venais, le toit est encore là. Bon. Mais est-ce que j'ai mon oui d'avance si le toit a brûlé? C'est ça l'enseignement d'Arnaud. Swamiji, il arrive, le toit a brûlé. Oui, le toit a brûlé. Et qu'est-ce qu'on fait avec un toit qui a brûlé, etc. On se croise. Mais il ne va pas se désoler, être bouleversé, etc. Il va juste constater le toit a brûlé. Bon. Alors pourquoi ça ne serait pas possible pour nous? Moi je dis c'est possible pour nous, mais il faut s'en donner les moyens. Si je n'ai pas commencé par m'entraîner sur des petites choses, le jour où il y a un gros truc, on a évoqué tout à l'heure un très gros truc, bien sûr, le départ d'Alain, ça va nous arriver de perdre des proches. Là on perd un ami, chez les uns et les autres, on va perdre des proches avant de, que ce soit eux qui nous perdent. Ça arrivera aussi. L'enseignement et tous les enseignements spirituels sont catégoriques. Un enseignement spirituel, ça sert à ça. Ça sert à ne plus avoir peur de la mort parce qu'on a trouvé en soi une ressource qui est plus large que les changements, même les changements qui ont toutes les apparences d'être définitifs. C'est ça l'enseignement spirituel, c'est pas autre chose. Après, après, il y a plein de retombées, on va dire, de bénéfices secondaires. Si vous êtes capable de dire oui, ça améliorera votre vie de couple, ça améliorera votre vie professionnelle, ça améliorera tout un tas de choses. Mais fondamentalement, ça ne vous empêchera pas de mourir. Donc, le vrai entraînement, c'est, ben voilà, moi ça y est, c'est ok, j'ai un oui d'avance. Donc si ça doit s'arrêter, eh oui. Voilà, c'est le but. Je ne vous dis pas que j'y suis, mais je vous dis que c'est ça le but que je me fixe à moi-même et que je vous fixe, que je fixe à la Berthet. Ça, c'était pour les trois constats. Et maintenant, une proposition. Puisque donc, l'année prochaine, la prochaine AG, ce sera la 30e. On s'est dit avec Anne-Marie que faudrait, tant qu'à faire, marquer le coup. On avait fait quelque chose pour les 20 ans de la Berthet. Et puis en réfléchissant, il y a une idée qui m'est venue, autour de laquelle on a échangé. C'est une idée un peu bizarre au départ. C'est l'idée du jubilé. Alors peut-être certains d'entre vous ne savent pas bien ce que c'est qu'un jubilé. Donc je vais vous faire. Je vais partager ma culture toute récente, Wikipédia. Bon. Alors, à la base, un jubilé, c'est une notion qui vient dans le judaïsme. Dans le judaïsme, tous les 50 ans, il y avait une année jubilaire. Alors, jubilé, c'est la même chose que jubilation. C'est une année, donc, où on fait la fête. Où on jubile. Pourquoi ? Ben parce que Dieu a permis encore 50 années à la civilisation, à la société. Il a donné en quelque sorte 50 années de plus. Donc on s'arrête pour s'en rendre compte. Et on célèbre. Et on célèbre comment ? Encore une fois, c'est Wikipédia, donc il y a sûrement des choses plus... Bon, il y a moyen d'approfondir. Mais on célèbre, alors entre autres, en partageant les... terres. On les repartage. Pendant 50 ans, il y a les malins qui captent les terres des moins malins, et puis qui accumulent des richesses, et puis il y a les moins malins où ils se retrouvent dans des familles de pauvres. On dit stop, on arrête tout, reset, et on repartage les terres. Hein,
ça marcherait ici.
Ça marcherait. Hein. On libère les esclaves. Parce qu'en 50 ans, il y en a forcément qui profitent des autres. Ah oui, mais au bout de 50 ans, là, esclave ou pas esclave, ça s'arrête, tout le monde est libre, et ça recommence. Que les meilleurs gagnent. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font encore ? J'ai oublié les autres trucs, mais enfin, c'est des trucs sympas comme ça. Donc, l'idée, c'est de faire une année où on se pose pour se rendre compte de ce qu'on a reçu, et puis améliorer ce qui peut l'être pour la suite, pas continuer bêtement dans les erreurs qu'on a déjà faites. Alors donc ça, c'est pour la tradition juive. Après, ça existe aussi dans le catholicisme. Enfin, dans le catholicisme, ils trouvaient que tous les 50 ans, ça ne revenait pas assez souvent, donc c'est tous les 25 ans dans le catholicisme, d'après ce que j'ai lu, encore une fois, hein, peut-être s'il y en a qui connaissent mieux la question que moi. Donc tous les 25 ans, le pape déclare une année jubilaire. Donc c'est une année où les chrétiens sont censés être plus attentifs à leur foi, à leur pratique. Il est tout à fait conseillé de faire des pèlerinages durant cette année. Les grâces, les bénéfices sont décuplés. Si vous allez faire le Saint-Jacques de Compostelle, faites-le en 2025, c'est la prochaine année jubilaire catholique. Là, vous allez voir que Saint-Jacques, il va vous bombarder de ses grâces beaucoup plus que si vous faites en 2024 ou en 2026. Je fais un peu d'humour. Mais derrière ça, il y a l'idée, la même, qu'on peut régulièrement faire une pause pour apprécier ce qu'on a reçu et trouver un nouveau souffle pour l'étape suivante. Alors, il y a un truc un peu marrant dans le catholicisme, c'est l'idée des indulgences. Si vous faites des efforts pendant une année jubilaire, vous gagnez des indulgences. Ceux qui n'ont pas fait le catéchisme, qui ne se rappellent pas de quoi il s'agit, les indulgences, pour ce que je m'en souviens, tu me démentiras, Cécile, c'est des bons points. Et après, quand on va au purgatoire, on sort ses bons points. Et du coup, ça va plus vite. On reste moins longtemps dans le purgatoire et on passe plus vite au paradis. Voilà. Alors, on peut traduire ça de la façon suivante. En effet, les efforts qu'on fait dans une année qu'on a décrétée jubilaire, eh bien, sont encore plus fructueuses, nous font du bon karma, encore plus que si c'est les efforts d'une année ordinaire. Troisième référence, elle est plus profane, celle-là, mais vous allez en entendre parler cette année. On parle aussi du jubilaire pour les monarques, et en particulier pour la reine d'Angleterre. Cette année, ça va être son jubilaire, que je ne dise pas de bêtises, de platine. C'est-à-dire qu'elle va fêter ses 70 ans de règne. Et il y a tout un tas de réjouissances qui vont avoir lieu pour célébrer ça. Voilà, là, c'est plus du côté de la réjouissance, mais c'est une dimension du jubilaire, puisque jubilaire, c'est jubilé. Alors, par exemple, je fais une toute petite recherche. En 2002, c'est les 50 ans de son règne, et c'était le jubilaire d'or. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette année-là avec son mari, qui était encore de ce monde? Eh bien, ils ont voyagé pendant un an pour visiter, j'ai appris ça ce matin dans Wikipédia, les 54 pays qui appartiennent au Commonwealth. On oublie un peu ça, mais parce qu'il y a plein de pays, c'est des tout petits territoires, des îles, etc. Il y en a 54. Et bien, ils ont mis un an à faire le tour de tout leur... leurs anciennes colonies, bah pour se montrer, se réjouir. Il y a eu évidemment chaque fois des fêtes et des célébrations. Alors ça, c'était... Ils ont fait ça pendant un an en 2002. Ils ont fait ça pendant 6 mois en 2012 parce qu'elle vieillit. Alors ils ont raccourci le programme.
Ce sera 3 mois en 2022.
Et là, cette année, c'est 8 jours. J'imagine que faut quand même y aller doucement, quoi. Bon. Alors, tout ça, ça nous donne l'idée, avec Anne-Marie, de décréter du haut de notre siège papal que cette saison, parce que nous, on marche par saison, comme vous l'a rappelé Joël ce matin, va être une saison jubilaire. Nous allons donc jubiler ensemble, donc célébrer l'existence des 30 ans de la Berthet, et puis essayer de faire peut-être un reset sur certaines choses qui pourraient être améliorées, qui pourraient être vécues autrement. Voilà. Alors, c'est la grande nouvelle de cet AG, c'est qu'on ouvre solennellement... la saison jubilaire des 30 ans de la Berthet. Ça veut dire quoi? Par exemple, je reprends certains des thèmes. Je vous propose que ce soit une année où on se libère de l'esclavage de nos émotions. Les Juifs, ils libéraient les esclaves. Et nous, on va libérer nos esclaves intérieurs, ou nos mécanismes qui nous maintiennent en servitude. On va travailler dans cette direction. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on sera tous libérés de ces mécanismes à la fin de l'année, mais oui, en un an, on peut faire du chemin. Et il y a des choses qui peuvent vraiment changer à l'intérieur de chacun d'entre nous. L'autre aspect, l'aspect chrétien, là, des indulgences à gagner, etc., ça nous a fait penser à quelque chose. C'est que dans presque toutes les comment dire, les groupements spirituels, il y a une partie de l'énergie et de l'argent qui sert à soutenir d'autres initiatives spirituelles. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas à la Berthet. Je veux dire que jusqu'à présent, on a fonctionné, je parle sur le mode de l'association, en mode égocentré. Je ne veux pas dire égoïste parce que c'est un mode, c'est un connoté. Mais ben, l'argent qui rentre à la Berthet, donc ça vient parce que vous êtes généreux, enfin voilà, donc il y a de l'argent qui rentre. Mais on s'en sert uniquement pour faire vivre la Berthet, sous différentes modalités. Alors, il y a eu quelques exceptions, mais qui sont mineures. Les années où on a fait l'anniversaire d'Arnaud, les années où on a célébré le décès d'Arnaud, hein, voilà. C'est-à-dire jusqu'au Covid. Bon. Alors on faisait une petite animation très modeste ici, et il y avait une potiche à donation, et la donation, on l'a envoyée à Hauteville, et comme tout le monde ne venait pas à cette cérémonie, l'association remettait de l'argent en plus de ce qui était donné par les membres, et on donnait à Hauteville. Mais on l'a fait, Carmo est parti, donc fait 10 ans, donc on a dû faire 8 fois, mais bon, une petite somme, voilà. C'était plus le symbole. Et en plus, on n'a jamais non plus voulu donner l'impression que la Berthet est une filiale d'Hauteville, c'est pas bon du point de vue fiscal. Il faut pas que Hauteville ils aient des problèmes parce que, ah oui, mais en fait, vous êtes un trust, vous avez des centres, et puis ils vous versent des honoraires. Enfin des, voilà. Donc, ça peut pas être. On peut pas faire de grosses donations régulièrement à Hauteville. Ça pourrait finalement être contre-productif. Donc, on s'est demandé si on pourrait pas, cette année, consacrer une partie significative, enfin on réfléchira après qu'est-ce que ça veut dire significative, pas forcément aujourd'hui, mais une partie du budget de l'association pour soutenir quelque chose qui pour nous aurait de la valeur spirituellement. Et une idée m'est venue, que je partage avec vous, c'est pas forcément celle-là qu'on retiendra en finale, mais nous avons un lien un petit peu privilégié avec Sabine Pigeon, qui est venue ici plusieurs fois faire des animations, et qui est la réalisatrice d'un documentaire sur Tenzin Palmo. Tenzin Palmo, c'est la nonne bouddhiste tibétaine, qui a eu un parcours de vie assez original et exemplaire, puisque donc elle est anglaise, elle a rejoint assez jeune un maître tibétain pas loin de Dharamsala, elle est devenue une de ses disciples, et finalement ce maître lui a demandé de faire une retraite solitaire qui devait durer 12 ans à 4000 mètres d'altitude dans une grotte. Voilà. Et voilà, ça n'a pas duré 12 ans parce qu'elle a eu un problème de visa, ça a fait que 11 ans et je sais plus quoi, 6 mois, 8 mois, bref, elle est redescendue de sa grotte et puis elle est quand même un tout petit peu transformée, n'est-ce pas? On le serait à moins. Et depuis, elle est enseignante de cette lignée et elle a fondé en Inde un monastère spécialement dédié aux femmes. Parce qu'elle s'est rendue compte que dans la tradition tibétaine, il y avait
discrimination, c'est-à-dire les femmes ne recevaient, les nonnes ne recevaient pas l'enseignement.
Voilà, que c'était comme chez nous il y a 2 ou 3 siècles, en fait, qu'il y a officiellement les hommes et les femmes peuvent tous les deux devenir moines, mais en fait, quand c'est une femme qui devient moine, eh bien, elle fait juste les tâches ménagères et elle a juste accès aux enseignements de base et elle n'a pas du tout accès aux initiations. Voilà. Comme elle avait eu accès à toutes les initiations, eh bien, elle s'est dit, voilà, moi je crée un centre pour permettre aux jeunes femmes qui le voudraient de suivre la voie tibétaine dans son intégralité. Donc, Sabine a été faire un documentaire là-dessus. Corinne, la femme d'Alain Bayou, a été plusieurs fois visiter cette nonnerie. Et ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire, du feu de qui tu veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a actuellement, je crois, une centaine de jeunes femmes qui suivent les enseignements bouddhistes pour devenir, alors pas toutes pour devenir nonnes, parce que maintenant ils ont fait aussi une école, ils les prennent jeunes, donc en gros de l'âge de 6 ans à l'âge de, je sais pas quoi, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Voilà, c'est une école, mais enfin quand même c'est une école monastique. Et puis il y a un certain, aux alentours de 18 ans, ils ont un choix à faire. Voulez-vous devenir nonne, confirmez-vous, ou bien souhaitez-vous quitter, voilà. Et il y a donc dans cette nonnerie un petit groupe de jeunes femmes qui ont allé entre, je sais pas précisément, mais entre 20 et 30 ans, et qui ont fait une première retraite de 3 ans et 3 mois, etc., en isolement. En sortant, on dit « Ah, nous, on veut retourner, c'est tellement bien !» Entre guillemets, c'est tellement bien. C'est... Enfin, bref, elles en veulent tellement qu'elles ont re-signé pour 3 ans. Et voilà. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que Tenzin Palmo est en train de former des enseignantes, pas des enseignants, on en a pléthore, des enseignantes qui vont avoir une vraie expérience profonde de la tradition tibétaine et qui ensuite, on peut imaginer, vont un peu se répandre, enfin voilà, féconder notre monde qui, par ailleurs, en a tellement besoin. Alors on s'est dit que peut-être ça pourrait être une des pistes, enfin une des idées possibles, c'est qu'on consacre une petite partie du budget de l'association de cette année à soutenir cette nonnerie. Et voilà, quelque part, quand nous-mêmes nous serons dans notre sadhana, nous pourrons nous dire bah ouais, moi j'y arrive pas à grand-chose, mais au moins je serai à quelque chose, parce que je permets à des jeunes filles plus douées que moi de faire du boulot que moi j'y arrive pas. Je vais vous raconter à cet égard une petite anecdote qui est vraie. C'est que, alors Anne-Marie, tu sauras dire dans quelles années c'était.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Le moine tibétain qu'on a parrainé.
C'était dans les années 1988-89.
Voilà. Bon, donc ça ne date pas d'hier. On a été contacté par une association, par je ne sais plus par quel biais, où il y avait des moines tibétains qui souhaitaient entrer en retraite de 3 mois, etc., mais qui n'avaient pas les finances. Et donc, il y avait possibilité de parrainer un moine. Et bien, franchement, moi, je me suis dit, je m'ai dit tellement mal, c'est tellement ingrat, je vais participer à la retraite de ce moine, parce qu'au moins, je me dirais, ben, moi, je ne suis pas capable de grand-chose, mais au moins, j'aide quelqu'un à faire le boulot à ma place. Pas à ma place, au sens, j'attendais pas à ce qu'il m'éveille, mais l'argent que je gagne, moi, je le dépense mal, puisque je perds mon temps à méditer. Voilà. Ben, au moins, il y a un spécialiste que je vais soutenir. Donc, on a fait ça, et ils nous ont envoyé une petite photo du moine. On avait dans la photo, dans la maison, la photo du moine. Et franchement, quand on passait devant, en tout cas, je ne sais pas si c'est pour toi, pour Anne-Marie, mais ça m'obligeait à me dire, mais attends, mais qu'est-ce que je fous ? Lui, il est enfermé pour 3 ans, là, et il fait ça à temps plein. Et moi, qu'est-ce que je fous ? Eh bien, je vous raconte ça parce que si on choisissait de soutenir, par exemple, la nonnerie de Tenzin Palmo, je pense qu'on se débrouillera pour avoir une photo au moins de la nonnerie, ça c'est facile, peut-être de quelques nonnes, enfin bon, je ne sais pas bien comment ça se passe. Ben, chacun pourra, ceux d'entre vous qui voudront, avoir cette photo chez eux et passer devant et se dire, mais putain, qu'est-ce que je fous, moi? Bon, c'est bien, j'aide, mais vous voyez dans quel sens ça peut être une stimulation? Voilà. Alors, bah, c'est le deuxième axe de cette idée. Hein. Le premier, c'est se libérer de nos esclavages. Le deuxième, bah, c'est de faire bénéficier et aider éventuellement des gens qui seraient plus doués que nous à le faire plus vite que nous. Parce qu'après tout, s'il y en a trois ou quatre qui sont vraiment libérés parmi ces jeunes femmes, tôt ou tard, l'un ou l'autre d'entre nous en rencontrera une, recevra les enseignements, etc. Et puis, il y a un troisième axe. Mais avant de parler du troisième axe, je voudrais vous lire un petit texte pour mettre... comment dire, tout à l'heure j'ai dit qu'il faut que ça soit tant qu'à faire significatif. Alors, c'est quoi aider les autres à progresser spirituellement de façon significative? Eh bien, on va retomber sur une notion qui existe aussi dans le judaïsme et dans le christianisme, c'est la notion de dîme. Ça vous dit quelque chose, la dîme? En théorie, voilà, quand on est un bon chrétien, on est censé donner 10% de ce que l'on gagne à l'Église ou à des institutions religieuses. Et en fait, moi j'ai trouvé un texte dans la Shiva Purana qui dit la même chose, mais c'est même un tout petit peu plus sévère. Je me suis dit, ça, voilà, c'est intéressant à lire. Alors, c'est un texte que je crois que j'avais mis sur le blog à un moment donné, et donc certains le connaissent déjà, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il est particulièrement proche de l'enseignement de Swamiji. Ce texte nous dit de la...
Je m'en charge.
C'est Siri qui se lance.
Je vous en prie.
il a reconnu un mot dans ce que j'ai dit, je ne sais pas. Désolé, la prochaine fois je penserai à le désactiver. De la vertu et de la pratique du bien dérive la richesse ou la prospérité. Et de la richesse dérive la jouissance ou le contentement. Donc la chaîne, c'est ça. Si je pratique, si je mène ma vie de façon éthique, je vais m'enrichir et je vais donc pouvoir profiter de ces richesses. De la jouissance pleine et complète dérive le détachement. Voilà ce que nous dit la Shiva Purana, et voilà en quoi ça rejoint l'enseignement de Swamiji, qui, vous le savez, nous dit toujours que ce n'est pas en renonçant prématurément à nos attractions, à ce qui nous plaît, etc., qu'on arrive à quelque chose. Il faut jouir consciemment de ce qui nous attire, de ce qui nous plaît, voilà, mais jouir consciemment, de façon à user et arriver au détachement. C'est-à-dire, quand on a pleinement joui de tous les plaisirs obtenus grâce à la richesse acquise par des moyens honnêtes, on atteint le stade du détachement. Bon, jusque-là, on est en plein dans soi-même. Ensuite, un peu plus loin, c'est d'un point de vue pratique. Chacun doit consacrer un tiers de sa richesse au dharma, c'est-à-dire donc à travailler sur lui-même, à recevoir des enseignements, etc. Donc, voilà, vous avez de la marge. Vous pouvez faire un tiers de donation à la vertu. Un tiers à la croissance de son bien. C'est-à-dire qu'il est tout à fait légitime, selon la Shiva Purana, d'utiliser une partie de ses ressources, un tiers, à capitaliser. Ben voilà, j'achète un terrain, je plante des arbres dessus, voilà, voilà. Et le dernier tiers, aux dépenses pour son plaisir. Boga, le mot sanskrit. Donc c'est aussi légitime de dire, mais moi, je m'offre un voyage, voilà. Ça, c'est... Vous voyez combien c'est proche de la sagesse de Swamiji. Pourtant, c'est la Shiva Purana, c'est un vieux texte que Swamiji ne citait pas forcément. Enfin bon, voilà. Bon, alors jusque-là, oh, ça va, c'est sympa. Mais au verset suivant, enfin verset 74-75. Avant de faire cette division en trois parts, on doit prélever un dixième de sa fortune pour le distribuer sous la forme de dons et de charité. D'accord ? Donc c'est là où on arrive à cette notion de dîme. Et la dîme, elle se, selon ce texte, elle se prélève avant qu'on se dise « Mais moi, j'ai besoin de placer de l'argent. Moi, j'ai besoin de m'acheter une nouvelle, je sais pas quoi. Ou moi, j'ai besoin de faire un nouveau séjour. » Non, non. On commence par dire « Il y a 10% de ce que je gagne qui va en don. Et après, je divise en trois parts. » Voilà. Donc, évidemment, je dis pas qu'il faut prendre ce texte au pied de la lettre, mais j'ai voulu vous le citer parce que là, voilà, ce sont des données traditionnelles et on retrouve des choses semblables donc dans le judaïsme. Et bon, alors ben voilà, c'est disons, on peut peut-être se demander, alors nous, si on réserve 10% des recettes de la Bercée, alors en gros c'est 80 000, ça fait donc 8 000 euros, ça ferait ça. Je ne dis pas qu'il faut qu'on va le faire, etc. Mais... Et c'est après qu'on dit, bah ouais, le reste, ça sert pour ceci, pour cela, etc. Donc, c'est le deuxième volet possible de cette année jubilaire. Et puis, le troisième volet, eh bien, c'est l'aspect festif, puisque l'aspect célébration. Alors là, on a quelques idées, mais pour l'instant, c'est totalement ouvert. Voilà, on va en parler avec dans le CA. Mais enfin, on va déjà quand même, disons, amorcer la pompe à idées. Hein. C'est pas des choses, on n'a rien décidé. Mais on a quelques idées à vous proposer. La première idée, vous allez trouver que ça me ressemble, mais bon, il faut bien que mes idées me ressemblent. Hein. Ça serait de refaire cette année, ce qu'on avait fait en 2005 à l'occasion des 80 ans d'Arnaud. Alors, dans la salle, peu étaient là, donc peu le savent. Mais on avait imaginé, bizarrement, ou je sais pas quoi, tiens, comment la Berthet pourrait honorer Arnaud pour ses 80 ans. Et on avait décidé de collecter des échantillons de mise en pratique. Je les avais triés, présentés, et on en a fait une brochure. Et le jour des 80 ans d'Arnaud, il a dit Arnaud, on vous offre cette petite brochure qui s'appelle 80 échantillons de mise en pratique pour vos 80 ans. Voilà. Cette brochure existe toujours. Vous pourrez à l'occasion y jeter un œil. Et on s'est dit avec Anne-Marie, mais pourquoi on ne referait pas ça sous une forme un peu différente, où on écrirait un livre dans lequel on collecterait des exemples de mise en pratique des uns et des autres, que je me fais fort de structurer, de présenter avec des chapitres théoriques. Et on s'est même dit avec Anne-Marie, au lieu de refaire le coup des échantillons de mise en pratique, ce qui est... C'était bien, hein. Arnaud avait beaucoup apprécié, il nous a fait des retours très très positifs, vraiment beaucoup apprécié. On s'est dit, mais tant qu'à faire, soyons un peu plus ambitieux, on pourrait faire un livre donc, qui serait coécrit, hein, je serais, je sais pas quoi, le metteur en scène du livre, et puis ça serait avec vos témoignages, sur les quatre piliers de l'enseignement. Donc, ce matin, en prenant petit déjeuner, j'ai eu une idée de titre, comme ça, hein, ça serait « Les quatre piliers illustrés par la pratique ». Premier pilier, hein, alors vu l'heure, je ne vais pas vous rappeler ce que sont ces quatre piliers, mais seulement très brièvement, hein, donc c'est la connaissance des principes du Vedanta et le goût, l'intuition de notre nature profonde. C'est ça le premier pilier. Donc, tous ceux d'entre vous qui cette année feront une grande expérience ou une petite expérience de moments de conscience élargie pourrait, s'il le souhaite, l'écrire, me l'envoyer, je ne sais pas encore sous quelle forme on fera ça, bref. Enfin bref, il faut que ça soit collecté. Et puis, ben, à la fin de l'année, un peu avant, on sélectionnera ceux qui sont les plus parlants par rapport au projet. Hein. C'est pas que, si vous n'êtes pas sélectionné, ce n'est pas que votre expérience n'est pas intéressante. C'est que s'il y en a beaucoup, on ne pourra pas toutes les mettre. S'il n'y en a pas beaucoup, on les mettra toutes. Voilà. Ensuite, ben, deuxième pilier, Manonasha, la destruction du mental. Ça, c'est typiquement les échantillons, comme on les échange dans les groupes de soutien. Donc cette année, ceux qui feront partie du groupe de soutien, ben, on vous demandera, est-ce que vous êtes d'accord? Là, ton échantillon, il est vraiment bien. Est-ce que tu es d'accord qu'on s'en serve? Alors, on enlèvera les noms.
On fera les noms et les prénoms. Voilà. Si vous
voulez. Hein, que ce soit anonymisé. Voilà. Mais... Ensuite, troisième pilier, Chitta Shuddhi. Ben là, donc, en gros, ça parle des laying. Ben, un certain nombre d'entre vous, de temps en temps, arrivent à boucler un cycle de laying. D'un certain point de vue, les laying, c'est jamais fini. On peut en refaire. Voilà, mais il y a quand même des grands cycles. Où, en gros...
Et aussi des choses qui sont... des résultats patents.
Voilà. De temps en temps, pour l'un ou pour l'autre d'entre vous... Il y a vraiment un avant et un après. Et ben, c'est pareil. Ceux ou celles d'entre vous qui le voudront pourront témoigner. Là aussi, on anonymisera les témoignages. Et on pourra... donc, il y aura un chapitre où j'expliquerai un peu en théorie ce que c'est que le laying. Et on illustrera ben, voilà ce qui s'est fait à la Berthet pour telle personne, pour telle autre, pour telle autre. Voilà ce que j'appelle donc... les quatre piliers illustrés, quelque chose comme ça. Et puis le dernier thème, Vasanakshaya, l'érosion des désirs, eh bien c'est pareil, dans votre vie, ça se fait pas à la Berthet, mais ça arrive qu'on en parle à la Berthet, de vous aider à prendre la décision, de changer de travail, de vous marier ou pas, etc. Bref, chaque fois que l'enseignement vous aide à prendre, à oser épanouir un aspect de vous-même qui jusque-là ne l'était pas. Et que vous sentirez, mais en fait, il n'y aurait pas eu l'enseignement, je ne l'aurais pas fait. J'aurais pas cru en moi, ou j'aurais pas eu assez confiance, ou j'aurais pensé que c'était trop dur. Mais là, comme ça m'a été dit par Anne-Marie, ou par Yann, ou je l'ai lu dans un livre d'Arnaud, ou etc., ah, je me suis dit, il faut que j'y aille. Je l'ai fait, ça a marché. Ben, ça serait précieux. Et au bout du compte, on se retrouve avec un ouvrage, hein, voilà, où on rappelle, donc si l'ouvrage est bien fait, ça sera, on le fait publier. Hein, et ben voilà, ce sera le petit manuel illustré de la mise en pratique selon la Sangha de la Berthet. C'est un peu long comme titre, on essaiera de trouver plus accrocheur. Voilà. Donc ça, c'est une de nos idées. Bon, alors, oui, j'ai classé ça dans les idées festives. Je ne sais pas si c'est si festif que ça. Bon, enfin, c'était les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ?
Les travaux et l'amélioration du monde.
Oui. Oui, donc bah, bien sûr que, enfin, vous savez pas forcément, mais moi j'ai fait de la voile quand j'étais jeune. Et donc quand on fait de la voile un peu, sauf si on prend un bateau de location, il y a toujours du bricolage à faire sur un bateau. Voilà, le bateau, il y a toujours un truc qui va pas. Bref. Quand j'arrive à la Berthet, j'ai l'impression d'être sur un bateau. J'arrive, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a une porte qui coince, il y a un truc qui fuit, voilà. Et j'ai pris un oui d'avance, parce que je me dis, en effet, si j'étais sur un bateau, je ne serais pas scandalisé, parce que la chaudière est en panne une fois, parce que... Bon, enfin là, la chaudière, c'est un peu spécial. Là, j'avais pas tout à fait toujours un oui d'avance. Bon, pour d'autres choses, eh ben, voilà, il n'y a pas eu longtemps, au dernier séjour, il y a eu une fuite de gaz. Bon, ben oui, là, j'ai facilement un oui d'avance. Oui, je suis sur un bateau, il y a un truc qui ne va pas, c'est normal. Voilà, ben, on répare. Mais au fil des années, il y a un certain nombre de choses qu'on a laissé traîner. Il y a un petit trou, par exemple, dans le plafond du vestiaire. Et là, depuis un certain temps, il y a une fuite d'eau. Ça a percé le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, le toit. Ça doit être du... Un placo, très probablement. Ça ne fuit plus maintenant, mais il y a un trou. Si vous levez la tête dans le coin, vous dites, ouais, c'est sympa comme ashram, mais c'est un peu vieillot, là, dans le coin.
Ah, la dernière en date, c'est un trou dans le toit qui est dans le grenier, voilà. Au-dessus de l'atelier, là, qui a été découvert avec Michel hier, et on a mis un seau, parce que ça goûte
d'accord. Voilà. Et donc, voilà, je me dis que ça serait l'occasion, cette année, pour... voilà, on fait un coup, je ne sais pas comment ça s'appelle sur un bateau, quand on remet tout à neuf, là, il y a un mot de marin. Hein.
La grande visite,
voilà. Bon, on fait une grande visite, et puis on se relève les manches. Et puis, voilà. Donc, ça fait partie des choses sympathiques à faire. Et puis, alors, donc, pour finir, eh bien, on pourrait envisager de faire la prochaine AG sous un format long, c'est-à-dire le format qui a lieu à Hauteville, par exemple, sur 2 jours, de façon à ce qu'on puisse faire plusieurs choses. Là, en gros, on a le temps pour faire l'AG statutaire, notre petit speech annuel, et puis avoir un invité l'après-midi. Du temps où Arnaud était vivant, l'AG d'Hauteville se faisait sur 2 jours, et il y avait souvent 5 invités. Plus l'AG statutaire. Alors, on n'est pas obligé de faire exactement pareil, mais voilà, ce serait l'idée. Il faudrait... Donc, vous serez avertis suffisamment en avance pour bloquer ceux qui le voudront, bien sûr, les 2 jours. Mais à Hauteville, on était tous partants. Hein. Personne, en gros, et c'est encore le cas maintenant, hein, quand on va à l'AG d'Hauteville, on va pour 2 jours. On ne dit pas, oui, mais moi, je vais que le samedi ou je vais que le dimanche. Sur 1000 adhérents, il y en a toujours, évidemment, peut-être un petit nombre d'exceptions, mais globalement, on s'inscrit à l'AG d'Hauteville pour les 2 jours. Donc nous, on fait ça depuis toujours, on s'est organisé. Ici, à la Berthet, on n'a pas pris ce format-là, donc vous êtes organisé pour l'AG, c'est une journée. Mais si déjà vous savez qu'il y a de grandes chances pour que l'année prochaine, ça soit 2 jours, eh ben, vous vous organisez, je serai pris 2 jours. Et puis, eh ben, on a toute l'année pour... voir comment on voudra qui on invite, comment on fait, etc. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas du tout travaillé là-dessus. Mais on pense que ça serait une façon chouette de clôturer l'année jubilaire des 30 ans. En y associant ceux qui voudront, y compris donc, des gens qui sont plus membres de l'association, mais qui ont... mais qui ont beaucoup contribué au départ. Je pense à Marianique, par exemple.
Jean-Michel
et Patricia, voilà. On les invitera. Après, ils feront comme ils voudront. Voilà. Mais, voilà. J'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais prévu de vous dire. Et je suis content que ça ait été enregistré, si ça a marché. Mais on a fait une sécurité. Parce que, comme c'est un peu original, mon idée, c'est de le mettre en ligne, l'audio, hein, pas la vidéo, de façon à ce que toutes les personnes qui ne sont pas là puissent entendre ça, se sentir concernées, et puis ensuite décider de se joindre à nous comme elles le voudront.